Chapitre 29. Sans les empreintes de pas, jamais il n'aurait pu trouver l'endroit. Une entrée naturelle, nichée au fond d'un repli de la falaise, à demi masquée par la végétation. Kate s'y engage sans hésiter. Avant de la suivre, Chris jette un dernier coup d'œil sur la baie qui s'étire à leurs pieds. Le ciel s'est couvert en quelques minutes. Les nuages sombres ont surgi de nulle part. Cette terre a le don d'envoyer des signes à qui veut les lire. La jeune femme allume sa lampe torche. Le passage n'a été ni élargi, ni aménagé, mais laissé tel que la nature l'a sculpté voilà sans doute des millions d'années. Pour s'y glisser, Reinhard est obligé de se baisser et ses épaules frottent. Sur la partie basse de la roche brute, des brins de laine restés accrochés attestent que l'abri est aussi connu des moutons. L'étroite faille s'enfonce au cœur de la falaise. À mesure qu'il s'éloigne de l'entrée, le sol devient sec et poussiéreux, l'air est plus frais. Le couloir serpente sur ce que Chris évalue à une dizaine de mètres, jusqu'à déboucher dans une cavité plutôt spacieuse, une salle dont les parois inclinées se rejoignent au plafond. Quelques vieilles caisses sont empilées, assurément depuis longtemps. Certaines portent la trace de publicités délavées pour des marques alimentaires datant du siècle dernier. Au sommet de l'amoncellement est posée une lampe à pétrole. Contre toute attente, elle est en bon état. Reinhard la soupèse. Le réservoir est loin d'être vide. Elle doit pouvoir fonctionner. Auriez-vous des allumettes? Pourquoi serait-ce toujours à moi d'avoir le matériel? J'ai déjà ma torche. Chris repose la lampe. Devant eux, la cavité se prolonge, avant de se resserrer en un couloir tout aussi brut que celui qui les a menés ici. Kate prend la tête, Chris sur ses talons. La jeune femme craint d'aboutir dans un cul-de-sac, mais après quelques ruptures anguleuses, la voie ouvre soudain sur un espace bien plus important. Kate élargit le faisceau de sa lampe, tandis que Chris débouche derrière elle. La torche révèle une salle souterraine vaste et haute. Il y règne un silence absolu. Comme dans la première salle, les murs se rencontrent au sommet, mais dans des proportions bien plus impressionnantes. Est-ce ici que les habitants sont venus se réfugier la nuit de l'attaque ? S'interroge Kate. Sa voix est privée de tout écho, comme si le lieu l'absorbait. Si c'est le cas, il paraît clair que l'on n'a pas pu les y débusquer par hasard. Les assaillants ont peut-être suivi leurs traces de pas comme nous aujourd'hui. Descendant depuis la voûte, le faisceau de Kate accroche quelque chose, une série de découpes dans la paroi, des ouvertures carrées, alignées. La muraille opposée en comporte aussi. La jeune femme s'approche. Ce sont des cavités creusées dans le roc, scellées par des dalles. Chris vient la rejoindre. Voilà donc les victimes du massacre. Paix à leur âme. D'instinct, il s'est mis à parler à voix basse, comme en un lieu sacré dont l'atmosphère impose le respect. Kate contemple l'enfilade de sépultures et murmure « Mais combien sont-ils ? » Le village comptait 38 habitants, et seuls 5 ont survécu. Il a répondu avant même qu'elle n'ait commencé à compter. « Comment diable savez-vous cela ?» Reinhard ne répond pas, interpellé par le fait qu'il dénombre davantage de caveaux qu'il ne devrait y en avoir. « Puis-je emprunter votre lampe ?» Elle la lui remet. Il passe en revue les tombeaux scellés. Sur le rebord de chacun d'entre eux est posée une planchette marquée d'un simple nom gravé au couteau, sans autre mention. Le bois grisé par le temps et le tracé des inscriptions laissent penser que ces plaques de fortune, conservées par l'hygrométrie et la température constante, pourraient remonter à l'époque de la tuerie. Si la date de décès de ces pauvres gens est tristement connue, celle de leur naissance reste chaque fois un mystère. Impossible de calculer l'âge des victimes. Chris s'en trouve déstabilisé, comme si le fait d'ignorer la durée du passage sur Terre de ceux devant qui il se tient entravait les sentiments qu'il pouvait éprouver pour eux. Reculant de quelques pas, Reinhard frissonne en songeant à la douleur de Peter, découvrant tous ses corps sans vie. L'abomination dans ce même silence. Les hommes avaient dû périr en défendant le village. Sans doute n'avait-on envoyé ici que les femmes, les enfants et les anciens. Trouver leurs cadavres n'avait certainement représenté qu'une partie de l'horreur. Chris imagine précisément le travail de forçat qu'il a fallu pour aménager ces catacombes. Les processions sans fin pour y amener les dépouilles des victimes tombées au village. Quelle colère et quelle peine avaient dû accompagner chaque coup de baramine pour aménager leur dernière demeure. Reignard égrène les noms en murmurant, comme on récite la prière des défunts. Malgré lui s'impose l'image de ce qu'il peut rester d'eux des siècles plus tard, derrière les dalles qui les protègent. La seule chose qui puisse être encore intacte, c'est la rage née de leur massacre. Kate effleure sa manche. Éclairez par ici, s'il vous plaît. Chris n'est pas long à repérer ce qui a attiré son attention sur l'autre paroi. Sur le rebord de l'un des caveaux sont posées quelques fleurs sauvages, fraîches. Certains n'ont pas achevé leur deuil, commente Kate. Je les comprends. Vous avez remarqué qu'il y a plus de sépultures que le nombre de victimes? Oui, 6 de plus. Chris examine la tombe fleurie. Sur la plaquette en bois est inscrit « Siobhan Roddick ». Cela vous évoque-t-il quelque chose, Miss Fairley? Existe-t-il une famille Roddick dans la baie? Jamais entendu parler. Peut-être avez-vous croisé ce nom durant vos recherches sur un acte, un registre? Elle réfléchit. Non, vraiment. Je ne vois aucun lien avec un des résidents actuels. Il doit pourtant forcément y en avoir un. Ces fleurs ne sont pas arrivées là par hasard. Reignard poursuit sa visite avant de s'immobiliser brusquement. Sur la planchette qu'il éclaire, il déchiffre le nom de Seamus Kinlock. C'est le seul à être suivi d'un symbole. Une sorte de croix celtique encadrée d'initiales illisibles. Hypnotisé, Chris s'y attarde. Le corps enseveli dans la cavité voisine est celui de Beth, son épouse. Une troublante émotion s'empare de Reignard. C'est de leur maison qu'il a hérité, de leur drame également. Il tressaille en découvrant que la sépulture suivante est occupée par celui dont le récit l'a saisi la nuit passée, leur fils Peter. La plaque qui vient ensuite le secoue à nouveau, Hayley Kinlock. La jeune sœur de Peter repose auprès de lui, leur famille réunie dans l'éternité. Chris est submergé par la compassion, mais il sent monter en lui autre chose qui n'explique pas, une résonance. Il se tient debout, vivant, au plus près de ce dont il a découvert le tragique destin quelques heures plus tôt. Une simple dalle les sépare. Soudain terrassé par l'impression que son époque et la leur se télescopent, il est pris de vertige. « Ça va ?» s'inquiète Kate. « Je viens de comprendre pourquoi il y a davantage de tombes que de victimes. » Il désigne les noms de Peter et d'Hayley. Ces deux-là ne sont pas morts la nuit du drame. C'est après qu'ils ont voulu être inhumés auprès de leurs parents. Vous en êtes sûr? Absolument. Ils auraient pu tout aussi bien reposer au cimetière ou dans le mausolée? Non, ils sont là, et je sais pourquoi. Reignard n'est pas dans son état normal, et Kate le sent. Elle recule de quelques pas pour lui laisser le temps et l'espace dont il a besoin. Il n'y a pas un bruit dans la grotte. Pourtant, ils y sont plus d'une quarantaine. Elle observe Christopher qui, immobile, se découpe dans le halo de la lampe. Il semble recueilli. Peut-être même est-il en train de prier. Elle ne l'en aurait pas cru capable. Lorsqu'après un moment il se retourne pour la chercher, elle propose doucement « Voulez-vous que nous ressortions ?»« Non, merci, vous êtes gentille. Si paradoxal que cela paraisse, je me sens bien ici. Cet endroit vous touche, n'est-ce pas ?» Profondément. Pas vous? Les cimetières me rappellent que la vie s'arrête un jour. Je pense aussi aux absents. Chris hoche la tête. Sont-ils nombreux à vous manquer? Par chance, non. Ceux que j'aime le plus sont encore là. Et vous? Peu sont partis, mais ils étaient tellement importants. Après une pause, il ajoute. Lorsque je vois cette famille réunie ici, il hésite, peinant à ordonner ses idées. Je prends conscience d'une évidence qui m'avait jusque-là échappé. Souhaitez-vous m'en parler? Il cherche un instant ses mots. Lorsque mon père et mon frère sont morts, ils ont été enterrés ensemble, l'un près de l'autre. J'étais encore très jeune et dévasté par leur perte. Ils m'ont constamment manqué depuis, mais ce dont je m'aperçois aujourd'hui, c'est que, d'une certaine façon, je leur en ai voulu. Nous avions toujours été trois, et tout à coup, je me retrouvais seul. Quoi qu'il y ait, après la vie, ils y étaient ensemble. Partis tous les deux, en m'abandonnant dans le monde des vivants. Votre mère était encore là. Ce n'était pas la même chose. Mais Vous avez raison. Je lui ai sans doute fait payer ma solitude plus cher que je n'aurais dû. Rognard se tourne vers Kate. Dans la lueur de la lampe, elle croit entrevoir des larmes dans ses yeux. Il s'efforce de contenir son émotion et souffle. Cette baie est décidément terrible. Elle vous dépouille de tout jusqu'à trouver votre âme.